Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. La petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles cette semaine. J'ai à mes côtés Nicolas et Olivier. Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Salut.
Et alors les filles par téléphone, les critiques Elisabeth et Catherine. Alors au programme de cette semaine, on va au Riche Clair avec un spectacle sur l'amour et la chute. Surtout, c'est Gwen Berou, Fall into the Show. On ira faire un tour du côté de Marny pour un ovni, hein, Parking Song, sur la maladie de Parkinson et Kurt Cobain. Je n'invente rien, Olivier nous en racontera plus. On ira faire un tour vers le répertoire. Catherine est partie voir la cantatrice chauve et en mai, on a le Kunsten Festival qui démarre ce week-end. On en discutera un peu avec toute l'équipe. C'est notre festival d'Avignon à nous, à Bruxelles, des spectacles qui viennent du bout du monde. Mais là, je me retourne vers le bout du cornet, on va dire. Coup de fil à Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Alors Elie, toi tu es partie voir L'amour et la chute, Fall into the Show de Gwen Berou.
Voilà, oui, alors c'est un spectacle entièrement dédié à la chute, et c'est vrai qu'on peut effectivement tomber amoureux, c'est une des choses aussi. Mais il faut bien lire le titre, hein, parce que c'est Fall into the Show, et en fait tout ce spectacle est construit autour d'un double questionnement, celui de la chute au niveau un petit peu chute burlesque. Là on est un peu dans un univers Charlie Chaplin où il se casse la gueule un peu comme ça, et ça fait toujours rire tout le monde. Et puis il y a la notion de show et de théâtralité aussi. Il y a quand même ce questionnement aussi sur le théâtre, qu'est-ce que c'est le théâtre qui est présent là. Et le dénominateur commun, en tout cas comme je l'ai ressenti moi, c'est un petit peu la performance. Alors c'est une performance d'une actrice qui est bon, non seulement seule en scène, mais qui est quand même particulièrement généreuse. C'est un théâtre aussi physique, c'est-à-dire qu'elle y va aussi. Voilà, parmi les choses qui tombent aussi, ben c'est un petit peu aussi les barrières avec le public, puisque sa volonté explicite était aussi de se mettre un petit peu au même niveau que son public, c'est-à-dire qu'elle se met déjà un petit peu en danger comme ça, parce que là, on est sur le plateau, enfin moi je l'ai vu au Théâtre de la Vie, donc on était sur le plateau avec elle de manière très proche, et puis en même temps, elle a un besoin comme ça aussi d'aller presque se frotter au public, d'aller les toucher, de vraiment interagir avec eux depuis le début. Mm-hmm. Donc voilà, ça donne évidemment un dispositif assez scénique, assez important aussi, parce que bon, c'est bien sûr un seul en scène, c'est centré sur la performance d'une actrice, mais il y a pas mal de deus ex machina dans ce spectacle aussi, puisqu'on utilise quand même fort les cintres. Mm-hmm. Et l'interactivité avec le public consiste aussi notamment à appeler des questions, donc on a une espèce de floche, hein, on tire la floche, mm-hmm. des personnes dans le public tirent la floche et débarque une question et hop, Gwen Berou est partie pour un morceau. Il y a des textes de son cru et également de la personne qui l'a aidé beaucoup à la mise en scène et à la dramaturgie, Céline Rallet, mais il y a aussi des textes classiques, il y a les Lamentations de Gilgamesh, l'Éloge de l'amour, Phèdre, ce qui lui permet de balayer tout un ensemble de registres. Et voilà, et ce qui fait à la fois que dans ce théâtre physique, dans ce théâtre de performance, le texte reste malgré tout très présent.
Très beau, hein, elle a des envolées poétiques en plein milieu d'une chute.
Tout à fait, c'est vraiment ce côté performance où justement le verbe n'est pas banni. Moi, c'est juste un tout petit bémol que j'avais, mais c'est parce que moi, je suis vraiment quelqu'un accroché au texte et tout ça, c'est que l'ensemble des choses, on s'éloigne au fur et à mesure un peu de la notion de chute. Enfin, il y a un moment où elle passe en revue, tomber en amour, tomber chic, tomber tchac.
Elle fait la litanie de tout ce qui est des chutes, et là, elle se casse la gueule à volonté, quoi.
Oui, bien sûr. Mais dans la globalité du texte, je trouvais qu'on s'éloignait un petit peu de cette notion de chute, de trou. Voilà.
On approchait aussi la notion de l'amour, parce qu'il y a quelque chose de très positif.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de très positif, de très chaleureux, de très généreux aussi. Et je pense que tout émane de son attitude à elle et de la manière dont elle se comporte avec nous, avec son public, où on est vraiment au même niveau. Donc c'est quand même un spectacle... J'entendais qu'on parlait d'OVNI, mais ça allait quelque part aussi un OVNI, mais un OVNI souriant, un OVNI avec une belle énergie qui s'en dégage, et donc c'était, c'était un moment très agréable. Enfin,
si je ne m'abuse, c'est une actrice de formation plastique, enfin d'art plastique également. Oui.
Non, en fait, Gwen Berrou fait le conservatoire, le conservatoire de Bruxelles. Elle vient de France. Elle a fait un bac art plastique.
Ah, c'est ça en fait.
Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle vient d'un théâtre, on va dire, classique. C'était la compagnie Chéri, Petite Âme, qui avait donné la trilogie de Belgrade. Elle est maintenant un peu connue parce qu'elle a eu le Magritte pour le second rôle dans Les Géants. Alors, ceux qui ont vu Les Géants, la scène du coca à table qu'elle donne aux gamins, un peu forcée, avec un regard, elle existe vraiment avec trois fois rien, hein, cette personne. Moi, je l'ai vue dans des seconds rôles et elle tire son épingle du jeu.
Mais c'est vrai que ça la rend tout à fait intéressante, et c'est intéressant d'avoir vu Les Géants et de la voir dans ce spectacle-là, parce que dans Les Géants, elle est plutôt dans, effectivement, une présence statique, comme ça, tandis que là, dans Fall Into the Show, elle bouge tout le temps, mais la qualité de présence et le fait que ça passe et que ça nous touche reste là. C'est aussi un spectacle qui, effectivement, m'a... Parce que toi, tu parlais d'amour, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est presque d'être ramenée à moi-même quelque part. À un moment donné, je me suis sentie tout à fait distraite, mais j'étais tout à fait plongée à l'intérieur. Et donc, je pense que c'est un spectacle qu'on doit définir comme un voyage, en fait. Mais c'est un voyage qu'on fait ensemble.
Ouais. Et c'est surtout très très drôle et très poétique, et c'est vraiment à la croisée du théâtre et de la performance, et ça c'est un mélange étonnant. Elle va vers la performance, et en tout cas
c'est une des choses qu'elle revendique au départ. C'est aussi quelque chose de très visuel, parce que c'est vrai que le texte est omniprésent, il n'y a pas de moment sans texte, mais le côté visuel est très présent, avec tout ce qui dégringole des cintres comme ça.
Moi, une petite scène qui m'a vraiment marquée, c'est qu'à un moment donné, elle s'installe tout doucement sur une chaise, il y a une robe qui lui tombe littéralement dessus, mais elle rentre complètement dans la robe, une robe baroque comme ça. Et à un moment donné, il y a une perruque qui tombe, elle se la prend en pleine tronche, et puis hop, elle se met une perruque à l'ancienne, et elle est partie sur un dialogue de la Belle du Seigneur, sur l'amour solennel. Et là, on a vraiment un vrai moment de poésie, donc on est constamment entre ce genre d'astuce et la poésie du texte, de l'amour et de la chute. C'est vraiment un bel objet à voir. Oh là, il y a 15 jours, hein, ça démarre. 15 jours
Alors,
au Riche-Clair.
C'est du 3 au 12 mai. Mmh. C'est du 3 au 12 mai, c'est 20h30, c'est au Riche-Clair. Et donc, n'hésitez surtout pas.
Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne semaine.
C'était Fall Into the Show de Gwen Berrou au Riche-Clair. Et alors Olivier, toi tu nous emmènes au Marny pour un étrange bazar, Parking Song. La maladie de Parkinson et Kurt Cobain, c'est ça ?
C'est plus ou moins ça. Donc, c'est le nouveau spectacle mis en scène par Michel Bernard, Parkinson, sur un texte de Sonia Chiambretto, qui est né suite à la rencontre lors d'un festival entre 5 dramaturges et 5 scientifiques. Et Sonia Chiambretto a rencontré un spécialiste des neurosciences avec qui elle a discuté pendant une heure, et après ces discussions, elle a écrit ce texte. Ce spécialiste travaille sur le décryptage du génome des oiseaux chanteurs pour comprendre leur manière d'apprendre le chant, et ainsi, puisqu'il y a des génomes communs avec l'être humain, pour pouvoir comprendre aussi le fonctionnement de l'apprentissage chez l'homme.
C'est un texte scientifique ?
Pas du tout. le spectacle se déroule en quatre parties, quatre livrets, qui sont chaque fois introduites par un narrateur, qui est Jean-Christophe Potvin, celui qui a composé la musique. Il est sur scène avec un batteur. La musique est omniprésente. Donc il y a cette partition batterie avec un mélange de chants d'oiseaux. Et on est parti pour une évocation de la personnalité de Kurt Cobain à travers un fan, à travers une jeune fille qui va à Seattle pour écouter les oiseaux, les chants des oiseaux.
C'est un voyage, quoi. Donc c'est le voyage d'une héroïne qui va... Mais pour quel est le rapport entre Kurt Cobain et la maladie de Parkinson? C'est... Petite précision, tu l'as vu hier à la Générale.
Oui, c'était une Générale.
Donc dans une salle à moitié vide, c'est l'avant-première.
Voilà.
Mais quel est le rapport avec Kurt Cobain et la maladie de Parkinson?
C'était de démontrer, en tout cas de faire ressentir la fêlure qu'il peut y avoir chez Kurt Cobain, son mal de vivre, son mal-être, et la difficulté qu'ont les personnes qui souffrent de Parkinson, qui est une maladie dégénérative du système du cerveau, et qui sont au quotidien, chaque geste du quotidien devient de plus en plus difficile.
Et la maladie, est-ce qu'elle est sur scène? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la représente, ou bien est-ce qu'il y a un discours dessus?
Non. Elle est évoquée. Il y a une projection d'une vidéo où l'on voit une dame d'un certain âge qui est prise de convulsions, qui bouge de manière très, très difficile. Il y a tout au début, une des premières scènes, lorsque tous les acteurs sont, tous les comédiens sont sur le plateau, il y en a un qui a un tremblement léger de la main. Mais à part ça, pour moi, la rencontre, en tout cas le parallèle entre la maladie de Parkinson et la personnalité de Kurt Cobain, elle reste assez ténue.
Qu'est-ce qu'on ressort du spectacle? Quoi, c'est un spectacle alors sur Kurt Cobain par évocation, par petite touche, ou bien ça va au-delà de Kurt Cobain et Nirvana ou... Parce qu'il disait à un moment donné dans le dossier, c'était sur la déchéance. Est-ce que ça, on arrive à le sentir là? L'âme humaine qui est un peu en peine, il prend des références à d'Artaud, par exemple.
C'est très léger. Pour moi, c'est très léger. Donc, ça reste à... Je pense que chacun doit se faire sa propre image quand il ira voir le spectacle, mais pour moi, c'est vraiment très léger, cette rencontre.
Est-ce que c'est un théâtre choral, donc ils sont à plusieurs? Est-ce qu'ils utilisent le multimédia? Parce qu'il y a le chant sur scène.
Ils sont 7, donc il y a 2 musiciens plus 7 comédiens, 2 garçons, 2 filles, il y a des danseurs, des gens qui viennent du cirque, il y a beaucoup de danse, beaucoup de moments dansés, qui évoquent plus ou moins la personnalité de Kurt Cobain, ce côté provocateur, mais de manière très...
On n'a pas de document à l'appui, quoi.
Non.
Ce genre ça.
Non, du tout. À part la projection de cette personne atteinte, je pense, de Parkinson, il n'y a pas d'autre multimédia. Et la bande son, évidemment, la musique.
Justement, je crois que l'ambiance sonore fait beaucoup dans ce spectacle également, puisqu'on parlait des chants d'oiseaux, on parle de Kurt Cobain, qui était quand même un musicien à la base, avant d'être un être torturé.
Enfin, oui, on l'oublie. Non, mais, chansons de Nirvana, quoi.
Oui, il y a 3 chansons de Nirvana. Et en fait, c'est pour moi la bande-son, à la fois la partition de Jean-Christophe Potvin et les chansons de Nirvana, qui viennent unifier le spectacle, autour duquel se construit le spectacle.
Toi, tu disais hors antenne, mais il y a une énergie qui t'a manqué. Mais bon, ça, c'était la Générale.
Oui, c'est une
espèce de grande représentation. Oui, mais au niveau du texte, par exemple.
Ce qui m'a manqué aussi, c'est la fragilité ou la fêlure de Kurt Cobain, de Nirvana ou de personnes qui souffrent de Parkinson.
Il faut dire que dans cette pièce, il n'y a personne qui incarne
Kurt
Cobain.
Non, il n'y a pas de personnage. Il y a un fan qui arrive sur scène avec des semelles compensées, qui fait un playback sur une chanson de Kurt Cobain. Il y a cette jeune fille qui décrit son voyage jusqu'à Seattle pour observer le chant des oiseaux. Mais il n'y a pas de narration. Il n'y a pas de personnage construit.
Est-ce que ça entraîne une poésie? Est-ce que ça, tu le ressens?
Je dirais plutôt une rêverie, alors. On est plutôt de l'ordre d'un parcours onirique que de la poésie.
Et donc, Olivier, toi, il y a une densité qui t'a manqué.
Tout à fait.
Okay. En tout cas, c'est quand même une curiosité, voilà. Parkinson, à voir jusqu'au...
Jusqu'au samedi 5 mai, c'est à 20h, et le jeudi 3 mai à 19h30.
C'est dans la grande salle.
Dans la grande salle du Théâtre Marly.
Et donc, on précise bien, on l'a vu, en tout cas, Olivier l'a vu à la Générale. À la Générale, il y a peut-être 9 personnes, 5 personnes. Dès qu'une salle se remplit, il y a une densité.
Je pense que l'énergie sera présente avec le public.
Okay. Moi, en tout cas, je vais aller voir cette curiosité. Kurt Cobain et Parkinson, ça me reste pour toi. Petite pause musicale, Nicolas.
Oui, juste dire www.theatremarny.com pour toutes les infos.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Cacatoès, Catherine, tu nous emmènes voir la cantatrice chauve.
En effet, de Ionesco, sa pièce culte, sa première pièce aussi. C'est mis en scène par Daniel Scaez au Théâtre des Martyrs. Et c'est mis en scène assez efficacement, je dois dire. Pas tout à fait surprenant, mais en tout cas, ça marche bien. Moi, je l'ai vu un soir où la salle était remplie de jeunes et ils étaient absolument conquis. Ça marche super bien. Ils étaient debout pour applaudir et tout. Ils se sont bien marrés. Donc voilà, ça marche bien. Il faut aimer ce genre de théâtre de l'absurde.
Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur le plot, comme on dit?
Alors justement, il n'y en a pas. C'est bien la particularité de la cantatrice Aube. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a, disons, deux couples qui se rencontrent et qui vont être interrompus par un étrange pompier qui a le feu aux fesses, ou en tout cas qui cherche frénétiquement des feux à éteindre dans tous les sens du terme. Et puis à cela s'ajoute une bonne qui joue les Sherlock Holmes. Mais en fait, tout le théâtre de Ionesco se trouve dans le ping-pong verbal, donc dans cette manière de remplir le vide de la vie de ces personnages par des mots. Donc c'est un petit peu l'art de parler pour ne rien dire et pour remplir un petit peu une angoisse existentielle. La peur de la mort aussi, la peur du temps qui passe. Et donc, tout
c'est
ça
après-guerre, quoi. Chose.
Oui, voilà. Ben, en fait, ça reste, je trouve, assez d'actualité, puisqu'on est quand même à une époque de l'ultra-communication, où on communique à outrance, et pourtant, on a l'impression que les relations humaines, parfois, s'étiolent un petit peu. Donc, est-ce qu'on se parle vraiment? Voilà, en ça, la pièce est assez actuelle.
Et Catherine, est-ce qu'il a adapté, par exemple, au niveau de la scénographie? Est-ce qu'on est dans un décor réaliste, figuratif d'un intérieur?
On n'est pas tout à fait dans un décor réaliste. En fait, la pièce se passe à Londres, donc on est dans un décor un petit peu, une façade un petit peu anglaise, qui est d'ailleurs illuminée d'un drapeau anglais au début, avec devant une herbe synthétique. Donc là aussi, on est dans la caricature hein, de ce couple anglais qui pique-nique comme ça sur l'herbe, sur des transats. Et puis, à la fin, le décor se déglingue peu à peu, en même temps que les personnages, parce que ça va un petit peu crescendo dans le délire. Donc on n'est pas dans un décor réaliste, mais on est dans un décor qui sert assez bien le propos d'une pièce voilà, caricaturale et absurde. Les personnages jouent assez bien leur partition, parce qu'il faut un certain talent pour intéresser à ce ping-pong qui ne veut rien dire finalement. Mm-hmm.
C'est une gymnastique, hein, c'est comme le Tardieu qu'on avait vu. Tu te souviens?
Voilà, et en même temps des silences, donc, parce qu'en fait ça commence avec ce couple assis sur deux transats comme ça qui se parlent à peine. Il y a la télé qui est allumée, tous les deux regardent la télé et on sent l'ennui profond d'un dimanche après-midi. Alors là, ça commence vraiment très lentement, évidemment, parce que je dirais qu'il y a au moins 2 minutes de silence entre chaque réplique. Donc il faut quand même se farcir ce moment-là, mais ça introduit bien le thème de la pièce.
Mais c'est quand même beau les silences au théâtre, mais dis-moi, toi, avec la représentation que tu as vue avec les jeunes, justement ces moments de silence, ils n'ont pas chahuté ni rien?
Non, pas du tout, mais c'était peut-être des bonnes classes aussi. Hein. Et puis surtout, après, le rythme s'accélère et on est pris un petit peu par ce côté, parce que c'est très comique à la fois, hein, ce pompier frénétique et... Voilà,
de toute façon, le langage absurde, le cadavre exquis, si je te dis « donne-moi le micro » et tu me dis « non, je te ramène la tasse », ben voilà, si on est parti sur 2 heures comme ça, à un moment donné, il y a une dynamique, il y a un humour et l'absurde fonctionne à chaque fois.
Oui, tout est dans la direction d'acteur, en fait. Il y a notamment un long duo donc de ce couple qui entame la conversation en disant « tiens, moi, j'habite, je suis née à Brunsfield. Tiens, c'est étrange, c'est curieux, moi aussi. J'ai pris le train pour venir à Bristol. Tiens, c'est étrange, comme c'est curieux, moi aussi. Et au fur et à mesure, on comprend qu'évidemment, ce couple est couple et vit dans la même maison depuis longtemps. Et il y a voilà, cette angoisse de réaliser la routine qui gangrène leur quotidien. Donc, il y a quelques petits moments un petit peu longs à cause de ce comique de répétition. Mais voilà, si on aime Ionesco, si on aime le théâtre de l'absurde, on
oui. Et puis ça se joue rarement, hein. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu la cantatrice Aube, peut-être il y a très très longtemps.
Mais c'est quand même sa pièce, je pense, la plus jouée. D'ailleurs, elle se joue, il y a un théâtre à Paris où elle se joue
en continu
depuis sa création. Hein,
mais pas en Belgique.
Non, pas en Belgique.
Ça je crois que c'est moins. Notre première cantatrice Aube. C'est à voir, Catherine.
C'est à voir jusqu'au 26 mai. au Théâtre des Martyrs.
3xw.theatredesmartyrs.be.
Mais justement, ça va être rude parce que jusqu'au 26 mai, il y a aussi le Kunsten Festival à voir. Alors, pour résumer grosso modo, le Kunsten, c'est le festival d'Avignon. Donc, des spectacles en VO qui viennent des quatre coins du monde. Catherine, Olivier et moi-même, on suit le Kunsten depuis pas mal d'années. Catherine, tes premières impressions, t'as lu le programme du Kunst, ça commence vendredi. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que t'as envie de dire?
Alors moi, je suis très intriguée par la nouvelle pièce de Brett Bailey, qui est un Sud-Africain qu'on avait déjà vu il y a quelques années avec une pièce qui s'appelait Big Dada, qui n'était pas entièrement une réussite à mon avis. C'était un style très grotesque, absurde encore une fois, sur le dictateur Amin Dada. Cette fois-ci, c'est un style très 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 différent avec Exhibit B, donc qui fait suite à Exhibit A. Donc c'est une série d'expositions, sauf que au lieu de déambuler parmi des objets, on déambule parmi des êtres humains. Et tout ça, c'est pour évidemment interroger le passé colonialiste de l'Europe. Donc en fait, il adapte ça à chaque fois au pays dans lequel il joue ça. Donc il l'a d'abord fait en Autriche et en Allemagne. Donc, en interrogeant le passé colonialiste de l'Allemagne...
En fait, il expose des Noirs.
En tout cas, il a travaillé avec des performeurs africains qui sont résidents en Belgique et notamment des demandeurs d'asile. Parce que son propos, c'est de dire... C'est un petit peu de s'inspirer des grandes expositions universelles où on reconstituait des jungles artificielles avec des Africains.
Où on montrait l'exotisme du noir, du sauvage, du nègre. Hein. C'est vraiment... Il y a cette violence quand même.
Exactement. Et alors, son propos, c'est de dire, mais aujourd'hui, la manière dont on traite les demandeurs d'asile, la manière dont on leur nie certains droits fondamentaux, la manière dont certains sont morts étouffés sur des vols de rapatriement, est-ce que ça, c'est pas aussi barbare et aussi... brutal,
Mais ça a l'air très provocant, hein. Donc ça ouvre le Kunsten Festival. Moi, je trouve ça une ouverture en force, hein. Ça se passe à l'église de Jésus, juste en face du Botanique, où il y a eu des squats de sans-abri. Donc il y a vraiment une ouverture très forte. T'as pas l'impression que le Kunst a été un peu plus politique cette année?
En tout cas, j'ai l'impression qu'un des fils rouges, même si j'aime pas tellement donner des thèmes à leurs éditions, un des fils rouges cette année, c'est l'Europe. Et cette pièce-là, en particulier, à ce moment-ci, c'est intéressant, au moment où on a vu ce qui s'est passé aux élections présidentielles, en tout cas au premier tour, avec la montée de l'extrême droite, partout, les discours assez puants sur les civilisations, les frontières, voilà, tout ce populisme qu'on entend actuellement, bah, évidemment, ça va résonner dans une pièce comme celle-ci. Donc, à mon avis, c'est une des pièces qu'il faut aller voir.
Justement, ce week-end, il y a aussi un qu'on va découvrir. C'est un metteur en scène croate qui habite en Slovénie. C'est Olivier Flivic, allez savoir. Lui, il fait un spectacle sur le traître à sa patrie. Donc, il reprend son histoire d'ex-Yougoslavie pour un peu épingler les nationalismes en Europe. Hein. Comme tu le disais, il y a vraiment, on a l'impression, cette espèce de fil rouge. Olivier, toi, tes premières impressions du Kunsten qui a suivi ça pendant un bon bout de temps et de la programmation?
Voilà, effectivement plus politique, me semble-t-il. Sinon, j'épinglerais trois chorégraphes. William Forsythe, qui revient en force. Jérôme Bell, également, qui va travailler avec une troupe de personnes handicapées. Et Brice Leroux, qui a une chorégraphie assez méditative et hypnotique.
Oui, c'est ça, c'est très minimal.
Voilà, tout à fait. Un peu une scénographie à la Bob Wilson aussi.
Et en théâtre?
En théâtre, ce qui m'intrigue, c'est le Hamlet en suédois du théâtre Weimar. Donc
moi
j'ai
aussi
vraiment hâte d'aller voir
Hamlet suédois, voilà. Avec c'est en cinéma, hein, il y a Catherine, est-ce que tu as épinglé d'autres coups de cœur?
Oh, moi j'ai envie de tout voir. il y a aussi Anna Rispoli qui revient... Oui. Cette année, qui est spécialiste des interventions urbaines. Elle avait notamment illuminé, il y a 2 ans, je crois, tout un immeuble des Marolles avec une installation avec des lumières. C'était très réussi. Cette année, elle emmène le public tout en haut. À partir d'une station de métro, on monte tout en haut d'une tour et on observe un quartier de Bruxelles de haut avec, j'imagine, toute une réflexion sur la vie. Enfin, voilà.
Et justement, le CUN sort aussi de la ville. Donc, il y a 15 théâtres, il y a plusieurs théâtres ou centres qui se mettent, c'est bicommunautaire, rappelons-le quand même. Il y a quand même tous les théâtres qui se mettent en réseau, hein, donc c'est envahi des festivals du CUT. Et il y a aussi des spectacles en extérieur. Donc, Catherine parlait du toit d'une tour. Il y a aussi un curieux voyage au musée des sciences naturelles, hein, où on va rechercher entre les mammouths et les dinosaures. On va essayer de réfléchir à l'avenir de l'humanité. C'est assez curieux. Et alors, il y avait la tour, le musée. Et cette année, on a l'impression qu'il y a moins dans l'espace public.
Oui.
Ça, c'est un des reproches qu'on fait de temps en temps au CUNS. Est-ce que Catherine, tu l'entends ce...
Oh, oui, bah, c'est vrai qu'à part Anarispoli, il n'y a pas grand-chose. Mais pourquoi pas? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de pièces traduites simultanément par... par ces traducteurs qui ne sont pas du tout formés au théâtre et qui nous endorment comme des somnifères.
C'est vrai, parce qu'on a vu quelques spectacles où on a une espèce de Walkman dans les oreilles. Et traduire un texte des pays de l'Est ou un Crime et châtiment avec une femme qui vous fait tous les mots, tous les personnages avec le même ton, ça fait des fous rires.
C'est drôle quand il y a le traducteur qui joue avec le comédien. On avait vu ça au National il y a quelques saisons.
Mais ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est pour la VO qui est mise à mal un peu partout. Il faut voir un spectacle en allemand, un spectacle en lingala, ça se voit dans sa langue. Hein. Mm-hmm. Donc il y a les surtitres, on perd un peu, mais en même temps, il faut défendre. Le Kunst a été un des premiers à mettre les spectacles en VO à Bruxelles. Et le surtitrage s'est amélioré depuis au moins 15 ans, c'est la 17e édition. Donc le Kunsten Festival démarre vendredi dans tous les coins de Bruxelles. Évidemment, on en reparlera dans chaque conspiration des planches jusqu'au 26, et on sera tous sur le pont dès ce week-end. Le Kunsten Festival, je crois que les places sont à 15 € et il y a un pass pour tous les spectacles. Il y a une trentaine de projets artistiques pluridisciplinaires dans Bruxelles qui donnent le site internet du Kunsten Festival.
www.kfda.be.
Rendez-vous tous à la semaine prochaine. Bon Kunsten, comme on dit, le soleil s'annonce de la partie. Enfin, à la semaine prochaine. Merci Catherine.
Merci.
Au revoir. Ah, salut à tout le monde et n'oubliez pas que le podcast de cette émission se retrouve sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de La Bellonne. Très belle semaine à vous. Constelación.